En France et dans beaucoup d'autres pays, le repas, c'est sacré. Et oui, un Français moyen passe plus de 2 heures par jour à manger et à boire, selon une étude de l'OCDE de 2023. Et depuis 2010, le repas gastronomique des Français est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors on entend souvent dire que la cuisine, ça rassemble, que ça met tout le monde d'accord. Qui n'est pas content de partager un bon plat avec ses amis ou sa famille? Mais une fois qu'on a dit ça, parlons de choses sérieuses. La nourriture nous renseigne aussi sur l'histoire et sur le fonctionnement de notre monde. Car la cuisine et l'alimentation, comme bien d'autres domaines, sont des fenêtres sur les rapports de force et de domination qui traversent nos sociétés. Beaucoup de sociologues ont notamment étudié la cuisine comme marqueur de classe. Et si je vous disais que l'alimentation peut aussi véhiculer des stéréotypes racistes, c'est ce qu'on va tenter de comprendre dans cet épisode.
Vous écoutez Oppression, le podcast de la section radio du QEJ consacré au racisme. Mange ton racisme, un épisode signé Louis Le Baquer.
Je suis prêt à parier que vous avez déjà toutes et tous mangé du couscous. Ce plat emblématique de la cuisine traditionnelle du Maghreb revient d'ailleurs souvent dans le top 3 des plats préférés des Français.
Le plat préféré des Français, c'est le couscous.
Aujourd'hui, nous allons faire un couscous. Pourquoi un couscous? Parce que c'est une des recettes préférées des Français.
Salut les épicurieuses et les épicurieux. Aujourd'hui, on parle de l'un des plats préférés des Français. Le couscous.
Pourtant, malgré l'importance qu'on donne à l'alimentation en France et aux nombreuses cultures qui y cohabitent, les différentes cuisines sont toujours hiérarchisées. C'est en tout cas ce que j'ai pu constater sur le terrain. Pour comprendre, je me suis rendu au Jabiru Café, dans le quartier de la Krutnau à Strasbourg. C'est un restaurant qui se dit afropéen avec des racines panafricaines. Et selon le chef, la cuisine africaine souffre encore de nombreux clichés et elle n'est pas reconnue comme une véritable gastronomie.
Alors moi, je m'appelle Gilles de la Tabadie, j'ai ouvert le Jabiru Café à la Krutnau, quartier de Strasbourg, en 2019. Voilà, ça va bientôt faire 5 ans. Donc j'ai ouvert avec ma mère, qui est la restauratrice, et je suis rentré d'expatriation à Strasbourg pour ouvrir un lieu justement comme celui-ci dans un quartier populaire de Strasbourg. C'est un restaurant qui va proposer une carte panafricaine. Ça veut dire qu'on va proposer des boissons et des plats qui sont issus de territoires qui ont un lien direct ou indirect, historique et culturel avec le continent africain. Donc ça fait qu'on ne reste pas seulement sur le continent africain. On va faire des plats ou des boissons qui viennent de Haïti, du Brésil. Enfin, ce genre de pays ne sont pas directement liés à l'Afrique, mais on voit que culturellement, il y a un lien. C'est ça, en fait, le côté panafricain. Après, donc, l'idée, c'est que chaque mois, on va proposer une suggestion du mois qui a pour but d'en apprendre plus justement sur les diasporas africaines. Il y a encore une hiérarchie pour moi. Donc, il va y avoir, pour certains, il y a les cuisines nobles. Il y a un client qui m'a déjà dit une fois, « Ah oui, mais ce plat ne vaut pas, il m'avait dit un bœuf bourguignon ou quelque chose comme ça. » Mais je dis, « Je ne vois pas quel est le rapport, en fait. » Donc, il y a pour certains encore une hiérarchie. Donc, tel type de cuisine peut valoir tel prix parce que c'est une cuisine de l'élite. Et tel type de cuisine, c'est une cuisine plutôt quand on veut être proche du peuple, on va dire. Par exemple, les gens pensent tout de suite que la cuisine africaine est grasse, qu'elle est très pimentée. Et d'ailleurs, pimentée, beaucoup de chefs africains le ressortent ça, parce que les gens demandent toujours, est-ce que c'est épicé? On dit oui, c'est épicé, parce que pour nous, la cannelle, c'est une épice, le gingembre, c'est une épice, le poivre, c'est une épice, donc il y a des épices, mais ce n'est pas forcément pimenté. Après, les autres clichés, ça va être que la cuisine africaine doit être cheap, elle doit être pas chère. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle ne devrait pas avoir les mêmes prix que dans d'autres restaurants. Par exemple, ça dérange personne de payer un onglet avec des frites surgelées à 23 euros. Par contre, quand on fait un plat au même prix avec différentes épices qui viennent d'un peu partout, des bananes plantains avec tout ça, les gens pensent que c'est pas adapté. Donc voilà, il y a aussi ce cliché de ça devrait être cheap. Donc gras, pimenté, pas cher, enfin bon marché. Et puis, pas accessible à tout le monde. Donc, ce que l'on fait aussi avec la carte, c'est que tout est détaillé, on explique. Donc, souvent, il y a des gens qui viennent, ça c'est aussi un cliché, qui nous disent, il faut que vous nous expliquiez vos plats parce qu'on ne connaît pas. Et donc, nous, on leur dit, il suffit de lire, en fait. Sur la carte, vous connaissez le riz? Oui, et dans ce plat, il y a du riz. Vous connaissez la pâte d'arachide? Oui, et dans le mafé, c'est de la pâte d'arachide. Donc, si vous lisez, vous allez voir qu'il n'y a rien de sorcier, en fait. Et tout ce qui n'est pas commun, c'est expliqué. Après, on va éviter les choses qui vont être, par exemple, qui vont pas plaire à une majorité de personnes. Par exemple, tout ce qui va être abat, etc., on va pas le faire. À moins qu'il y ait un jour un événement spécial. Mais pour le moment, c'est le genre de choses où je me dis, ça, c'est par exemple la ligne que je vais pas forcément traverser maintenant, parce que à un moment, faut payer son loyer. Donc, si je fais un plat et que ça ne fonctionne pas, c'est pas du tout intéressant.
Les liens entre race et alimentation sont multiples et en même temps, c'est une histoire assez simple.
Nicolas Kaiser-Brill est journaliste et doctorant en études culturelles comparées à l'université de Ratisbonne en Allemagne. En 2021, il publie « Voracisme », un livre dans lequel il montre que le concept de race est inventé pour justifier la gourmandise de certains Européens depuis l'esclavagisme.
Toute cette histoire de l'esclavagisme a un lien direct avec l'alimentation, puisque ces personnes esclavagisées l'ont été pour, dans leur majorité, pour faire pousser des cannes à sucre, donc pour produire le sucre que les Européens et ensuite les États-Uniens blancs ont mangé. Donc le lien entre racisme et alimentation, il est avant tout historique. C'est quelque chose que l'on retrouve, d'une part pour des raisons historiques ou pour des raisons d'échelle, c'est-à-dire que si on regarde qui sont les personnes qui font pousser qui produisent la nourriture que l'on consomme tous les jours, ce sont dans leur immense majorité des personnes racisées, que ce soit à l'étranger, si on prend par exemple le cas des personnes qui font pousser le soja au Brésil, pour prendre un exemple. Ou que ce soit en Europe, hein, si on regarde les personnes qui font pousser qui cueillent les tomates que l'on mange en Italie, ce sont encore une fois dans leur grande majorité des personnes racisées qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Asie et qui sont payées en général 5 euros de l'heure, avec des cas à moins de 3 euros de l'heure dans des conditions de quasi esclavage. On a tout ce qui concerne la production. Ensuite, on a tout ce qui concerne la consommation. Si on regarde quelles sont les personnes qui préparent la nourriture dans les restaurants, dans les cantines, là encore, il y a une division raciale du travail qui n'est pas la même dans tous les endroits et à toutes les époques. Mais si on prend le cas d'une ville comme Paris, par exemple, c'est très clair. Si vous allez dans la plupart des restaurants, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent du Bangladesh, qui sont employées en cuisine, pas parce qu'il y a une culture culinaire incroyable au Bangladesh, mais parce qu'il y a une division raciale du travail, des stéréotypes de race qui font que les patrons ont tendance à mettre des Bangladeshis en cuisine. À la plonge, on trouve en général, pas toujours évidemment, mais en général des personnes qui viennent d'Afrique de l'Ouest, encore une fois, pour des questions de division raciale du travail. Et puis enfin, il y a tout ce qui concerne les représentations, en particulier la publicité, où là encore, on retrouve des stéréotypes raciaux. Banania, en France, est l'exemple canonique, hein, où le produit est vendu en utilisant le stéréotype du tirailleur sénégalais qui sourit sur les boîtes du produit, mais on retrouve des exemples très nombreux dans différentes industries agroalimentaires.
Et au-delà de la division raciale du travail, la domination coloniale a aussi influé sur la construction de nos goûts au fil des siècles. À partir de la fin du 19e siècle en France, de nombreux ingrédients provenant des colonies sont utilisés pour élaborer des plats à thème colonial. C'est là que commence la hiérarchie des cultures culinaires. L'historienne américaine Lauren James l'explique dans un article paru en 2014.
Quelques plats à tonalité coloniale furent introduits dans la cuisine française entre les années 1890 et les années 1930, atteignant un pic de popularité au cours des années 1930. Comme l'exotisme était en vogue au moment de l'exposition coloniale de 1931, les recettes incluaient plus fréquemment des produits et des mets en provenance des colonies. Si les plats réalisés s'appuyaient sur des ingrédients du monde colonisé, ils adaptaient ceux-ci à la cuisine française et maintenaient un certain degré de séparation. La cuisine coloniale, comme on l'appela à partir de 1931, s'est fortement appuyée sur les aliments coloniaux les mieux intégrés à la cuisine française. Les fruits tropicaux et le curry en poudre, assimilables parce que liés à un autre colonial générique désincarné, et non à des peuples coloniaux spécifiques, que la littérature gastronomique décrivait comme différent et dégoûtant. Le dégoût joue donc un rôle clé dans la curiosité gastronomique et dans la cuisine exotique, en définissant les frontières entre exotisme acceptable et alimentation transgressive. On distingue le nouveau du différent à partir du menaçant et du dangereux. Quand les habitudes alimentaires des autres exotiques sont décrites comme dégoûtantes, cela limite, voire supprime, l'attrait pour leur cuisine.
Le goût est une construction culturelle et cette construction n'est pas exempte de pensée raciale. Moi, le sujet sur lequel je travaille, par exemple, les huiles végétales, est symptomatique de ça. C'est-à-dire que les huiles qui sont consommées par des personnes racisées, en premier lieu l'huile de palme, qui est très bonne pour la santé, c'est plein de vitamines, c'est d'une très jolie couleur. On peut faire pousser de l'huile de palme en bio dans des forêts très durables. Et malgré ça, l'huile de palme continue à être diabolisée et elle est diabolisée depuis que les Européens ont colonisé l'Afrique de l'Ouest au milieu du 19e siècle. Avant cette période, l'huile de palme était très bien vue en Europe, mais depuis la colonisation et depuis que on considère l'huile de palme comme étant un aliment pour personnes racisées, on n'en mange plus en Europe et c'est même devenu quelque chose que l'on considère comme n'étant pas mangeable.
Ce qui est intéressant, c'est cette tension entre admiration et rejet pour les plats des peuples colonisés. Mais certains mets ont du succès. On en revient au couscous, qui est popularisé en France à partir des années 1960.
Nous pourrions maintenant aussi arroser ce couscous avec du beurre fondu, n'est-ce pas?
Oui.
Ce qui est tout à fait dans la règle.
Oui.
Et puis, nous pouvons aussi préparer la rissa avec l'ail, les piments, une ou deux tomates que je prendrai là-dedans, piler le tout au mortier, ajouter un tout petit peu de jus bien gras du couscous.
Et on a un excellent couscous.
Et voilà un excellent couscous,
prêt,
relativement facile à faire,
et
dans lequel on a touché un petit peu à toutes les traditions.
Avant 1962, le couscous était un plat réservé à ce qu'on appelait les musulmans, donc les Arabes d'Algérie, et les Blancs. Ne connaissait pas le couscous. Si vous regardez dans le dictionnaire de l'Académie française de 1935, à la définition couscous, vous allez voir le couscous est défini comme étant des boulettes de viande grillées dans l'huile. Donc rien à voir avec le couscous, alors même que les personnes qui ont rédigé ce dictionnaire connaissaient très bien l'Algérie, certaines étaient originaires d'Algérie française. Donc encore une fois, le couscous n'existait pas pour les Blancs, c'était considéré comme un plat pour Arabes. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le couscous, la semoule, était réservé aux troupes indigènes, aux troupes d'Afrique du Nord. Le couscous n'était pas distribué aux Blancs. En 1962, tout change et on trouve énormément de restaurants de couscous en France métropolitaine. Pourquoi ? Tout simplement parce que les pieds noirs ont fait du couscous le fondement de leur identité, alors même qu'ils n'en consommaient pas quand ils étaient en Algérie. Une fois qu'ils sont arrivés en France, les pieds noirs découvrent d'une certaine manière le couscous et en font le fondement de leur identité. Donc le couscous, plat préféré des Français, oui, mais la raison pour laquelle le couscous s'est établi en France a tout à voir avec l'histoire coloniale et ce n'est absolument pas l'histoire d'un mélange de cultures harmonieux qui se serait fait. Même si évidemment ce mélange existe, il y a énormément de personnes qui mange du couscous reconnaissant son origine algérienne et sans participer à une appropriation culturelle du tout. Mais la raison pour laquelle le couscous s'est développé en France, c'est à cause des pieds noirs. Et c'est pas du tout un hasard si le Front National organise des réunions régulièrement dans des couscousseries.
Dépasser les a priori racistes en cuisine, ça signifie également s'éduquer. C'est aussi le projet de Gilles et sa mère dans leur restaurant. Montrer la diversité culinaire de l'Afrique en s'inspirant de plusieurs cultures. Au Jabiru, on ne fait pas que manger. On tente de comprendre l'histoire des plats que l'on savoure, comme nous l'explique Gilles. Et la décoration du restaurant s'inscrit dans cet esprit.
Chaque mois, on va proposer une suggestion du mois qui a pour but d'en apprendre plus justement sur les diasporas africaines. Par exemple, ce mois-ci, on va faire un plat argentin Et pour le coup, les gens vont apprendre qu'il y a aussi une communauté afro-descendante en Argentine. Voilà, la déco est assez colorée chez nous, donc tu vas avoir un peu... T'as un mur, une fresque Ndebele, c'est une ethnie qu'on va retrouver en Afrique du Sud, c'est des formes un peu géométriques et très colorées. Il y a un mur avec différents masques qu'on a baptisés, il y en a un qui s'appelle Chun-Li, Big Brother, etc. Donc il y a plein d'éléments de décoration qui font que les gens, on les pousse à être curieux. Donc à partir de là, on leur montre aussi que l'Afrique peut être contemporaine et moderne et que nous, on n'est pas forcément dans ces clichés-là où il y aura un tableau avec un soleil couchant, une tête de lion, une calebasse sur la tête. L'Afrique peut être moderne.
Une démarche qui fait penser à celle de Maurice Acco, l'un des seuls chefs étoilés noirs connus en France. Après avoir participé à Top Chef en 2020, il anime une émission sur France 3, Cuisine ouverte. Et dans sa cuisine, il fait dialoguer son héritage ouest-africain avec sa passion pour le Japon et son éducation française.
Moi, j'aime beaucoup parler de conversation dans ma cuisine parce qu'on n'est pas forcément sur un esprit de mélange absolument. On est vraiment sur une idée de...
cohabitation, enfin, ouais. De compagnonnage.
Comment on les fait échanger, comment on arrive à magnifier la gastronomie japonaise avec des produits africains, comment on arrive à magnifier une gastronomie du continent africain, mais avec des produits japonais. Bien sûr, la France est toujours au centre du propos aussi, mais c'est toujours cette idée-là et se dire comment, sur ces contrastes forts, on peut faire ressortir l'un ou l'autre ou justement surélever les deux. Et ça permet aussi de changer aussi une vision qu'on peut avoir sur l'une ou l'autre cuisine.
Le racisme, avec tous les mécanismes qui le constituent, est un phénomène structurel et complexe. Et il serait illusoire de vouloir s'en détacher par des actions individuelles. Mais on peut tenter de lutter contre, tout le temps, même à l'heure du repas.
C'était Oppression, le podcast de la section radio du QEJ consacré au racisme. Cet épisode a été imaginé et fabriqué par Louis Lebacquer en novembre 2024. Coordination Thomas Rozek et Céline Aslo, réalisation Jean-Christophe Galen. Tous les épisodes sont à retrouver sur le site du QEJ, QEJ.info.